la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
En mars 2021, invité par la librairie Diderot, Serge Regour, juriste, professeur, universitaire et président de la commission Culture d'Occitanie, est venu présenter à la MDP son petit ouvrage « SOS Culture » dans la lignée d'Indignez-vous aux éditions Indigènes. Vous pouvez écouter l'intégrale de la captation de sa conférence, dont les thèmes principaux sont repris ici, c'est-à-dire la marchandisation de l'art, la barbarie du marché appliquée aux arts, la fin de l'exception culturelle française et surtout l'absence depuis des années de politique culturelle. Comment résoudre cette pathologie après en avoir décrit les sources et les symptômes?
Je crois que, en fait, il y a un moment que la culture est abandonnée par les décideurs politiques, qu'il y a une déconnexion entre finalement la politique et la culture, que la culture n'occupe plus que finalement une portion congrue et très congrue dans les grands débats politiques, notamment autour des campagnes électorales. Le fait que les grands décideurs politiques, effectivement, n'aient même plus de vraie curiosité à l'égard de la culture pouvait engendrer quand même des difficultés sociales, politiques importantes. Parce que depuis des années, j'observais, comme n'importe quel honnête citoyen, une montée quand même d'un certain nombre de périls nouveaux, de difficultés, de nature très, très différente évidemment les unes des autres. Mais je constatais par exemple que la montée en puissance des grandes multinationales, ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFA, ce que d'autres ont appelé la révolution numérique, la révolution Internet, etc., était de nature, dans une logique qui est une logique proprement marchande, de bouleverser pas mal de choses. J'observais également, comme simple citoyen, que les politiques menées ou pas menées dans un certain nombre de territoires, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu facilement les territoires perdus de la République, faisait que, me semblait-il, l'un des liens sociaux majeurs, c'était quand même la question culturelle, et que dans beaucoup de quartiers difficiles, et que finalement c'était l'écran d'Internet, et puis des pratiques spontanées correspondant à l'identité de certaines communautés qui prenaient le pas, mais que ce lien social finalement des références culturelles partagées étaient à l'abandon. Et, bon, tout ça me paraissait effectivement pouvoir poser un certain nombre de difficultés. Ensuite, j'ai vu que, très concrètement, et je ne jette la pierre à personne, mais j'observais que, y compris dans notre région, par exemple, il y a des festivals nombreux en France qui sont aujourd'hui rachetés par des multinationales dans des logiques de pur profit, et que les réponses du politique étaient absentes. Lorsque concrètement un festival doté par les collectivités territoriales financièrement, parce que c'est une association, parce que ce sont des bénévoles, est racheté par une multinationale dans des logiques de pur profit, avec évidemment une ligne de programmation nouvelle, puisqu'il s'agit de faire rentrer un maximum de recettes propres en billetterie. Ces multinationales proposent évidemment aux bénévoles de rester partie prenante, parce que ça leur permet de continuer de solliciter les subventions des collectivités territoriales, c'est-à-dire de la DRAC, pour parler clair, de l'État, mais également des collectivités territoriales. Et nous sommes confrontés à un vrai problème, parce que c'est toujours évidemment le chantage aux retombées touristiques, aux retombées économiques, finalement à l'adhésion, à l'affection, à l'implication des bénévoles. Question, faut-il, ça c'est une vraie question de politique publique en matière culturelle, maintenir la mobilisation d'argent public au profit de multinationales dont les objectifs sont purement marchands, mercantiles, et qui sont déjà rentables dans une logique de profit? Et voilà une question qui n'est jamais abordée. C'est le néant total, c'est-à-dire qu'on est dans l'empirisme, dans le pragmatisme, dans finalement, ben, démerdez-vous comme vous voulez, comme vous le sentez. Et donc ma conclusion, c'est un exemple que je prends parmi d'autres, c'est qu'il n'y a plus de politique culturelle, que s'est opérée une déconnexion entre finalement les grandes questions politiques et la place de la culture dans ces politiques publiques, mais du coup la question effectivement des activités culturelles, en particulier par exemple la fréquentation des musées, et je pense évidemment au théâtre et au cinéma et à tous les lieux culturels, la question n'est même pas abordée, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, j'allais dire, automatiquement dégradés, rétrogradés dans le non-essentiel. Si les politiques culturelles se sont totalement désagrégées, ont perdu de leur substance, c'est dans un contexte général selon lequel la part faite au marché, à la régulation marchande, est devenue prévalente. Et du coup, ceux qui nous gouvernent ont comme imaginaire essentiel, effectivement, une hypothèse de la régulation spontanée par le marché. Je pourrais prendre, je cite plusieurs exemples dans mon bouquin, mais à l'époque, il y a eu un rapport tout à fait incroyable, le rapport Lévy-Jouyer, du nom des deux promoteurs principaux. Ils ont été les deux promoteurs de ce fameux rapport, qui établissait l'équation selon laquelle, en termes de marché et de croissance du marché, ce qui serait décisif dans les années à venir, c'était ce qu'ils appellent les actifs immatériels, c'est-à-dire les valeurs de marque, et ils ont considéré sur ces bases que, par exemple, les musées, tout le patrimoine, les marques muséales, ont une valeur marchande et que du coup, le vrai rayonnement permettant la croissance économique, c'est de transformer les musées en marques muséales, ce sont des logiques de marketing qui sont à l'origine notamment de la délocalisation d'un certain nombre de grands musées. Le plus célèbre étant évidemment le Louvre d'Abu Dhabi aux Émirats. Et donc on est là, pour un juriste comme moi d'origine, on est dans un vrai paradoxe. Cet exemple est important. Parce que normalement, les œuvres muséales sont précisément définies comme étant hors marché. Les œuvres qui sont dans les musées sont définies par un statut d'inaliénabilité, ce qui est très rare dans notre société, c'est-à-dire qu'une fois qu'une œuvre est rentrée au musée, elle est incessible. Elle ne peut évidemment être ni donnée ni vendue. C'est le principe d'inaliénabilité qui font que ces œuvres relèvent définitivement du domaine public. Donc là, on est dans le noyau dur, normalement, de l'appropriation collective, et par un retournement dialectique absolument invraisemblable, on transforme néanmoins ces éléments en éléments de marché, qu'on a déjà introduit une logique marchande, financière, dans le domaine qui, normalement, est le plus éloigné de ces logiques-là. On évoquait tout à l'heure la question des acteurs ou des artistes dits bankable, qui, là encore, c'est une appellation professionnelle reconnue et qui marque une contradiction frontale, phénoménale, avec ce que la France avait obtenu dans le cadre de ce qu'on appelait l'exception culturelle. Il se trouve que, grâce à Jack Ralit, dont j'ai été le compagnon de route pendant plusieurs décennies, j'ai été l'un des experts des gouvernements, d'ailleurs, y compris en période de communication de droite et de gauche, pour les négociations au sein de l'Organisation mondiale du commerce et ensuite de la diversité culturelle au sein de l'UNESCO. Et ce qui était essentiel dans ce qu'on appelle communément l'exception culturelle, c'est qu'en gros, dans un contexte de libéralisation marchande, de libre-échange marchand, on allait obtenir une exception, c'est-à-dire la non-application des règles du libre-échange dans le domaine, alors, on dit de la culture, en réalité c'est un tout petit peu plus compliqué, parce qu'au départ, c'était le cinéma et l'audiovisuel. Mais c'est l'Union européenne qui négocie les traités internationaux dans le domaine, encore une fois, des relations économiques. Et ce que la France avait réussi à faire porter par l'Union européenne, ça a été ce qu'on appelait l'exception culturelle, c'est-à-dire faire une exception à l'application des règles ordinaires du libre-échange pour les activités culturelles, et je disais tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué, puisqu'au départ, c'est le cinéma et l'audiovisuel. Parce que, en gros, ça veut dire quoi, le libre-échange ? C'est très bête, c'est qu'on doit traiter les produits étrangers, extérieurs, dans les mêmes termes que les produits français. Prenons l'exemple du cinéma, ça signifie qu'un film américain devrait être traité rigoureusement de la même manière, sur les mêmes bases, qu'un film français. Un film français, aujourd'hui, c'est produit avec de l'argent public. C'est le rôle du CNC, j'entends pas le détail. Sauf qu'il y a des questions tout à l'heure, mais aujourd'hui, les films français se montent avec une part très importante de financements publics qui viennent du CNC, mais également, par exemple, des régions. La région d'Occitanie finance régulièrement des longs-métrages, des courts-métrages, des documentaires, etc., etc. Si on appliquait les règles du libre-échange, ça voudrait dire que les films hollywoodiens devrait accéder au fonds de soutien dans les mêmes termes que les productions nationales. Vous imaginez l'absurdité. C'est-à-dire que le CNC, je le rappelle, a été créé à la suite des grands mouvements après la Deuxième Guerre mondiale, après la libération, pour protester contre ce qu'on avait appelé le plan Burns-Bloom. Léon Blum. Burns était le secrétaire d'État américain, à la veille d'une invasion des productions américaines en France, puisqu'il y avait un stock de films de 4 ans du fait de la guerre qui risquait d'inonder le marché français et d'assécher totalement la production française. Et donc c'est sur ces bases-là qu'on a mis en place tout un système de soutien au cinéma français. Vous imaginez si au bout du compte aujourd'hui, on disait mais finalement ces soutiens, ils doivent aller à la production hollywoodienne. Ça n'a évidemment aucun sens. Donc les gens du cinéma à l'époque et de l'audiovisuel, de la télévision, ont été les premiers à mesurer les risques du libre-échange en matière culturelle. Donc, on a appelé ça l'exception culturelle. Pourquoi ? Parce que c'est une grammaire juridique tout à fait simple. Vous avez un principe, on libéralise tout, et une exception au principe, sauf dans le domaine culturel. Sauf que, contradiction, du coup, le cinéma et l'audiovisuel, effectivement, échappent aux logiques traditionnelles du libre-échange et des fameuses règles qui relèvent encore une fois aujourd'hui de l'Organisation mondiale du commerce, de l'accord général sur le commerce des services. Mais, contradiction interne, aujourd'hui les films se montent sur la base essentiellement de l'accord de star, qu'on appelle des acteurs bankable, c'est-à-dire bankable, qui rapporte de l'argent. C'est-à-dire on vous dit, oui, votre projet est très intéressant, mais le rôle principal, c'est du schmoll, ça n'a aucun intérêt. Donc oui, vous faites le film, mais vous mettrez Kad Merad ou Jean Dujardin ou telle autre grande star. Donc, si vous voulez, il y a là encore une contradiction, un dévoiement du système qui a été d'ailleurs dénoncé par des producteurs, des distributeurs eux-mêmes, y compris par le plus grand distributeur français qui s'appelle Vincent Maraval, et qui avait lui-même dénoncé cette hypocrisie qui consiste à mobiliser de l'argent public, tous les systèmes d'aide automatique et d'aide sélective du CNC, pour en réalité des produits qui sont profilés dans une logique proprement commerciale. Je pourrais multiplier les exemples. Si on est aujourd'hui dans ces contradictions, dans ces errements, c'est que, effectivement, nous n'avons plus de vrai référentiel politique, c'est-à-dire de désignation de c'est quoi les finalités d'une politique publique dans le domaine de la culture. Alors, si on remonte aux sources très vite, le ministère de la Culture a été créé pour la première fois, vous savez, en 1959, après l'avènement de la Constitution de 1958, ça s'appelle le ministère des Affaires culturelles, et c'est créé par De Gaulle, dans un gouvernement à participation communiste, comme chacun sait, et à l'origine, au tout début, puisque le CNC a été créé, vous le savez, je l'ai rappelé tout à l'heure, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et lorsque, en 1959, donc long moment après, on crée enfin un ministère des Affaires culturelles, De Gaulle le confie à ce qu'il appelle son ami génial, Malraux. Et là, c'est un objectif très précis qui figure dans le texte décret de 1959, qui définit ce qu'on va appeler la démocratisation culturelle. Et le principe est simple, c'est l'accès du plus grand nombre aux grandes œuvres de l'esprit, notamment française. Donc en gros, c'est permettre au plus grand nombre, à tous, dans une logique démocratique, d'accéder aux grandes œuvres de la littérature, de la peinture, de la sculpture, etc., etc. Bref, de ce qu'on appelait initialement les beaux-arts, et les arts se multiplient. Et dans ce contexte, ce projet de l'accès des plus grandes œuvres de la culture à tous se décline par toute une série de mesures, notamment les fameuses maisons de la culture. Et les maisons de la culture, qui devaient être, il devait y avoir une par département, c'est-à-dire une centaine. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Mais le projet, c'est que ces maisons de la culture, c'était à la fois la littérature, la peinture, le cinéma, etc., etc. Donc là, il y a un vrai référentiel culturel. Le bilan est à demi-teinte, puisque on s'aperçoit dès ce moment-là que, bien entendu, tout cela ne peut aboutir qu'à partir d'un certain nombre de conditions sociales. Or, avec la fin de ce qu'on appelait les 30 Glorieuses, avec le début de la crise économique, les problèmes démographiques, tous les problèmes politico-économiques que l'on connaît, on aboutit au constat selon lequel, les politiques culturelles, finalement, ont marché en termes d'offres, c'est-à-dire en termes d'aide à la création artistique, aux lieux, aux compagnies, etc., mais que, en gros, le public n'a pas suivi. Et que, ça sont notamment les analyses de Bourdieu et de bien d'autres, ces politiques ont été faites pas seulement au profit des artistes, mais au profit, évidemment, des citoyens qui doivent pouvoir aller au théâtre, au musée, etc., etc., à l'opéra, qui sait. Et on s'aperçoit que il y a ce que Bourdieu et d'autres analysent en termes de captation par des classes sociales, pour aller vite, moyennes et supérieures, qui sont dotées, pour faire du Bourdieu à la petite semaine, qui sont elles-mêmes dotées d'un capital culturel, qui évidemment est assis sur des conditions sociales favorables, et donc, dès lors que vous n'êtes pas bénéficiaire de cet habitus culturel, il se trouve que les musées, les théâtres, l'opéra, bref, les lieux de culture, finalement, ne sont pas utilisés par ceux pour qui ces politiques et ces financements ont été mobilisés. Sur cette base, deuxième référentiel culturel, lorsque la gauche arrive au pouvoir, je fais une parenthèse, ce que je dis dans le livre, dès la première page, me vaut quelques turbulences personnelles dans le camp politique auquel je suis supposé aujourd'hui appartenir. Je ne parle pas du PC, vous avez compris, je parle de la majorité politique régionale, qui est évidemment plus large que la composante à laquelle j'appartiens. Mais force est de constater que, en gros, le deuxième grand référentiel, le deuxième ministère qui met en œuvre un véritable référentiel culturel, c'est évidemment Jack Lang, retour de la gauche au pouvoir en 81. Et là, le décret de 82 qui définit les politiques culturelles prend en quelque sorte, non pas le contre-pied, mais une position totalement différente de celle qui avait fondé les politiques culturelles sous Malraux. En gros, c'est de dire que tous les Français doivent pouvoir exprimer librement leur capacité de création. Et donc, on aboutit à ce qu'on va appeler le tout culturel. C'est-à-dire que, et je dis évidemment un peu méchamment, qu'à défaut d'avoir pu faire en sorte que le culturel devienne populaire, on s'est résolu à faire en sorte que le populaire devienne culturel. C'est-à-dire qu'on reconnaît des tas d'activités nouvelles comme étant de la culture au même titre que la culture, disons entre guillemets, cultivée, savante, bourgeoise. On a mis tellement dans la tête des gens que finalement tout est égal à tout et que finalement les graffitis c'est de l'art. Et que du coup, les graffitis peuvent être confondus, alors j'exagère évidemment, mais qu'on peut finalement mettre les graffitis ou le street art sur le même plan que Rembrandt ou que Goya, qu'on peut considérer que le rap, ça n'a rien à envier à Schubert, à Mahler ou à Beethoven, bon, je pourrais multiplier, que le design, que la gastronomie, que tout ça, c'est de la culture au même titre. Bref, c'est un référentiel culturel, un autre, mais, qui n'est pas le mien, vous l'avez compris, mais dont je reconnais que c'est un véritable référentiel culturel. C'est-à-dire qui notamment transite, ça c'est peut-être le bon côté des choses, par le soutien notamment aux pratiques amateurs, alors que jusqu'en effet à Langres, il y avait une césure très forte entre, notamment dans le spectacle vivant, entre les professionnels et les amateurs, dont on considérait que bon, c'était effectivement une pratique spontanée d'éducation populaire, mais que ça n'était pas évidemment la dramaturgie telle qu'elle pouvait être mise en œuvre par des compagnies professionnelles dans des lieux conventionnés. Et là, on est dans un deuxième référentiel qui, à mon avis, aboutit à beaucoup de confusion, puisque pour partie, ça emprunte à ce que les Américains appellent le multiculturalisme, c'est-à-dire considérer que finalement, toutes les cultures sont égales entre elles, et du coup, ça permet de laisser dans une forme de misère sociale et culturelle des pans entiers de la société américaine, en considérant que finalement, ben, ce qu'ils font de manière assez spontanée, c'est aussi respectable que les grandes cathédrales de la culture dans les grandes métropoles urbaines pour la bourgeoisie américaine. Et donc, ce discours-là, qui consiste à dire que tout est égal à tout, encore une fois, a le mérite d'une forme de clarté, c'est-à-dire que c'est pourquoi on mobilise des fonds, mais, à mon avis, ça aboutit à des résultats, des conséquences qui sont éventuellement, en tout cas c'est mon analyse, négatives. Et aujourd'hui, quel est le référentiel ? Eh bien, il n'y en a plus. Alors je cite un peu méchamment, parce qu'il y a des gens intelligents qui se rendent bien compte de ce que je dis. Donc lorsque Frédéric Mitterrand, par exemple, est ministre de la Culture de Sarkozy, il tente un temps de proposer un référentiel qui tombe à l'eau, évidemment, tout de suite, parce que ça ne veut rien dire du tout. Comme il ne peut plus dire la culture pour tous, puisque ça, c'était les cas précédents, il dit que, dans plusieurs conférences de presse, il écrit que son propos sera la culture pour chacun. Mais la culture pour chacun, le propre du politique, c'est de raisonner en termes collectifs. Toute politique suppose une prise en compte du nombre. Pour chacun, je veux dire, ça ne veut rien dire. Du coup, il abandonne très vite. Cette pauvre pèlerin, qui évidemment, c'est une erreur de casting colossale, a essayé d'avoir des idées. Et qu'est-ce qu'elle a eu comme idée ? Elle a eu l'idée, et j'en parle parce qu'il se trouve que je connais le personnage, j'étais prof dans la même université que lui. Elle fait appel au groupe d'économistes de Toulouse, qui sont menés par un prix Nobel d'économie, très libéral, comme vous devez imaginer, et elle essaie de définir une politique culturelle sur la base d'une politique des algorithmes. Les algorithmes, pour moi, c'est exactement le contraire d'une politique culturelle. Les algorithmes, ça consiste à vous donner ce que vous connaissez déjà. C'est-à-dire, si vous faites les algorithmes pour les attentes sociales dans les quartiers de Nîmes, il est sûr que Marivaux ou Gramsci, que je cite, ne viendront jamais. Donc ils resteront, parce que les algorithmes ne feront jamais monter à la surface. C'est totalement calamiteux. Je ne veux même pas parler des ministres suivants, si vous dites, mais ils ont laissé quoi ? Monsieur Riester, par exemple, qui a précédé à Madame Bachelot, elle jouait dans le même registre que les bigards et consorts, c'est-à-dire les grosses vannes vulgaires, etc., sans nuance, et du jour au lendemain, elle devient ministre de la Culture. Donc c'est un raccourci un peu facile, mais peut-on imaginer que Malraux ait été un compagnon de route de Jean-Marie Bigard ? J'aurais pu faire un bouquin très unilatéralement contre les politiques, pour faire le constat des carences politiques et considérer qu'il y avait deux univers, l'univers frelaté, critiquable des élus, et qu'à l'inverse, il y avait un univers magnifique qui était celui des artistes. Or là, ils sont dans l'incompréhension, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que lors du premier confinement, quand le président de la République prend la parole, il cite même pas le mot culture. Lorsque quelques temps plus tard, il passe le relais à son premier ministre lui-même cite toute une série d'activités, de commerce, il ne prononce même pas le mot culture, dont l'explication, elle est simple. Il y a pas... Ça veut dire que le logiciel culturel a disparu, effectivement, de l'esprit, de l'imaginaire, de l'environnement mental de ceux qui nous gouvernent. Que pour eux, effectivement, ça n'est même pas un sujet de curiosité, et que le plus souvent, par exemple, la télévision, qui est la première, que ça nous plaise ou pas, c'est la première pratique culturelle des Français. Il y a des Français qui n'ont pas d'autre pratique culturelle que la télévision. La deuxième partie de l'ouvrage que j'ai, en forme de clin d'œil, appelé « Que faire ?», c'est-à-dire que face à cette situation, comment en sortir ? Je me fonde sur d'abord une citation de Gramsci, qui pour moi est l'auteur le plus déterminant quant à la reconnexion du rapport entre la culture et la politique. En résumant Gramsci, on pourrait dire qu'il a tout compris, c'est pourquoi la droite et l'extrême droite ont travaillé Gramsci et citent Gramsci, puisque Gramsci, mieux que personne, à propos de son concept d'hégémonie culturelle, avait compris que quand on gagne les batailles culturelles, on gagne les batailles politiques. Mais que lorsqu'on a perdu les batailles culturelles, on perd les batailles politiques. Et la droite et une partie de l'extrême droite ont formidablement compris ça, au moment où la gauche a abandonné finalement, malheureusement, malencontreusement, ce type de préoccupation. Et donc, en gros, le postulat de Gramsci était de raisonner sur ce qu'il appelle le pessimisme de l'intelligence. Et évidemment, on ne peut être que pessimiste sur la base des éléments que tu viens d'évoquer, mais par ailleurs, l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire considérer qu'il y a toujours des batailles à mener et qu'il ne faut jamais capituler et que l'histoire n'est pas écrite d'avance, que pour ça il faut trouver des pistes. Et le concept P auquel je me réfère de tout décline ensuite, c'est une notion que j'emprunte au dramaturge Brecht. Donc je pense que chacun sait ce qu'il représente aussi par rapport à nos valeurs. Pour moi, moi j'ai découvert le théâtre à 18 ou 19 ans, hein, eu égard au milieu social dont je venais. Et je sais que le théâtre a été pour moi une formidable révélation sur le double terrain de la sensibilité et de la compréhension du monde. Et Brecht a un concept qui a été perdu de vue depuis longtemps, qui est le concept d'apprentissage. C'est-à-dire que les choses ne tombent pas du ciel et que le rapport à la culture doit être un rapport d'apprentissage, c'est-à-dire de sensibilisation, d'appropriation, et que donc le rapport à la culture, à la création artistique, doit venir dès le plus jeune âge et doit se poursuivre tout au long de la scolarité. Or, de mon point de vue, ce n'est pas la seule question, évidemment, mais la question cruciale est de réatteler l'éducation et la culture, c'est-à-dire les apprentissages artistiques, dès le plus jeune âge, et, au collège, au lycée, à l'université. Je viens de l'université. L'université est un désert sur le terrain culturel. C'est-à-dire qu'on va à l'université pour apprendre dans les logiques d'efficience, de performance, de réussite à des examens, de réussite au concours, mais il n'y a plus aucune empreinte culturelle. De la même manière que dans les grands concours de la fonction publique, chercher la place des disciplines artistiques ou culturelles dans le programme de l'ENA qui forme nos élites. Rien. Moi, j'ai été dans le jury de l'ENA, y compris de l'INET, des cadres à plus de la fonction publique territoriale. Il n'y a jamais aucune question sur les questions des beaux-arts, etc. Ce qui importe aujourd'hui, c'est les logiques managériales, de marketing, d'efficacité, etc., etc.
Pour en savoir davantage, écoutez l'intégrale de la conférence sur Radio Alliance Plus ou procurez-vous le livre de Serge Regour, SOS Culture, à la librairie Diderot pour 5 euros. Alliance Plus.